Bonsoir, ou peut-être bonjour, tout dépend de l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. En tout cas, ici à Paris, il est pile 19h.
RFI Soir. Philippe Le Caplin.
Bienvenue dans la grande session d'information du soir avec des faits et des commentaires, des reportages et des analyses. Dans 10 minutes, après le journal, ce sera Action du Monde avec les regards croisés des rédactions en langues étrangères de RFI concernant la toile d'araignée, qui est le nom de cette opération qui a permis à l'Ukraine de détruire de nombreux avions russes alors qu'ils étaient censés être à l'abri à des milliers de kilomètres du front. Il sera également question d'un retentissant procès au Mali concernant le procès de l'achat d'un avion présidentiel, des relations commerciales entre la France et le Vietnam et du Festival du cinéma chinois à Paris. Dans une demi-heure, ce sera les dessous de l'Infox. Ce soir, là encore, il sera question de cette opération militaire ukrainienne, donc sous l'angle de nombreuses désinformations auxquelles elle a donné lieu. Également, question de la propagande du mensonge et de la désinformation avec ce qui se passe à Gaza, avec une enquête sur le compte X Gazaoud. Afrique Soir s'intéressera entre autres au processus de Doha, c'est-à-dire aux négociations pour ramener la paix en RDC. Et puis dans 2 heures, sur RFI, Ici l'Europe, qui recevra la députée française européenne Manon Aubry, coprésidente de la gauche au PE, au Parlement européen. Elle parlera des élections en Pologne, aux Pays-Bas, et sa vision de lieu dans le monde. RFI Soir, 17h en temps universel, tout de suite l'essentiel de l'actualité avec un journal, c'est avec vous Adrien Delgrange, et tout d'abord le fait qu'il n'y a toujours pas de véritable distribution alimentaire à Gaza.
La GHF, la Fondation humanitaire pour Gaza, chargée de fournir des vivres à la population, annonce que tous ses centres vont rester fermés dans l'enclave palestinienne jusqu'à nouvel ordre. Marine de la Moissonnière, le nouveau système d'aide humanitaire imposé par Israël et mis en place depuis une semaine à peine, ne fonctionne pas.
Les distributions alimentaires de la GHF ont vite tourné au fiasco meurtrier. Selon les autorités de santé de Gaza, une centaine de Palestiniens venus chercher de la nourriture sont morts depuis le 27 mai. Mardi à Rafah, plusieurs dizaines de Palestiniens ont été tués ou blessés par des soldats israéliens. Mercredi, nouvelle salve de tir. La GHF décide alors de fermer ses 4 centres. Hier, elle en rouvre certains avant donc cette nouvelle fermeture générale. Même si elle a finalement pu distribuer de l'aide aujourd'hui, aucune date de reprise de ses activités n'a été annoncée. Officiellement, cette société privée opaque, soutenue par les États-Unis et Israël, travaille à se réorganiser. Elle a demandé à l'armée israélienne de renforcer la sécurité des civils afin d'éviter de nouvelles scènes de chaos. L'ONU et de nombreuses ONG refusent de travailler avec la GHF. Selon ses détracteurs, l'aide humanitaire est utilisée pour servir les objectifs politiques et militaires d'Israël, notamment des déplacements forcés de population.
Benjamin Netanyahou qui annonce par ailleurs aujourd'hui la mort de 4 soldats dans la bande de Gaza. 4 hommes tués dans l'explosion d'un bâtiment piégé à Ran Younes, précise l'armée israélienne. Et puis enfin, au nord d'Israël, le président libanais Joseph Aoun dénonce une violation flagrante du cessez-le-feu. Hier soir, Beyrouth, la capitale libanaise, a été bombardée par l'armée israélienne. Israël menace encore aujourd'hui de continuer à viser Beyrouth si le Hezbollah n'est pas désarmé.
La guerre en Ukraine avec Moscou qui juge le conflit existentiel.
Alors que les négociations de paix sont toujours dans l'impasse, pour le porte-parole de la présidence russe, l'invasion de l'Ukraine est présentée, vous le disiez Philippe, comme une réponse à une question existentielle de la Russie. Dimitri Peskov ajoute: pour la défense de nos intérêts nationaux, de la sécurité de notre avenir et celui de nos enfants, pour justifier cette invasion. Plus de 3 ans de guerre et des risques militaires qui réduisent la production agricole en Ukraine. Nouveau coup dur pour l'agriculture ukrainienne. La récolte de céréales de cette année pourrait chuter de 10%. Anishka Kumor, l'agriculture représente en quelque sorte l'épine dorsale de l'économie ukrainienne qui constitue pour 1/3 de la population la principale source de revenus.
Une saison difficile attend les agriculteurs ukrainiens. Après un hiver anormalement chaud, des pluies diluviennes ont retardé la campagne de semences. L'Ukraine est un producteur mondial de céréales, d'oléagineux ou encore de betteraves sucrières. Des cultures fortement dépendantes de la météo. Les risques militaires réduisent aussi la récolte dans les régions touchées par les combats. Résultat, la production de céréales pourrait chuter à 51 millions millions de tonnes en 2025 contre plus de 56 millions de tonnes l'an passé. Cette mauvaise nouvelle coïncide avec la fin du régime préférentiel pour les produits agricoles ukrainiens instauré par Bruxelles depuis 2022 afin de soutenir l'effort de guerre de Kiev. Ce dispositif a expiré ce jeudi. Pour l'Ukraine, les pertes de recettes d'exportation pourraient atteindre 800 millions de dollars d'ici à la fin de l'année. En effet, l'UE était le principal client de l'Ukraine, achetant jusqu'à 60% de ses produits agricoles pour environ 15 milliards de dollars.
Agnieszka Kumor.
Et dans l'actualité du monde, il y a aussi cet appel signé par 75 prix Nobel pour appeler la communauté internationale à agir pour mettre fin aux souffrances du peuple congolais.
Un appel lancé à l'initiative du docteur Denis Mukwege, lui-même prix Nobel de la paix en 2018. On s'en souvient pour son action dans l'est de la RDC auprès des femmes victimes de viols devenues une arme de guerre. La tribune est parue cette semaine dans le quotidien français Le Monde. Florence Maurice.
La liste des signataires est impressionnante. 75 prix Nobel de nationalité et disciplines variées, chimie, littérature, médecine ou paix, de l'auteur nigérian Wole Soyinka à David Macmillan, un chimiste britannique. Ensemble, ils dénoncent le silence mondial persistant, disent-ils, qui entoure les crimes commis dans l'Est congolais. Une tragédie, peut-on lire, qui dure depuis trois décennies de conflits armés, de guerres répétées, de catastrophes humanitaires et de violations systématiques des droits humains et du droit international, et tout cela dans une impunité, je cite, enracinée. Les 75 prix Nobel dénoncent l'absence d'actions significatives pour endiguer ces exactions et appellent à l'organisation d'une conférence internationale sur la paix. S'agissant de la guerre en cours, ils reprochent à la communauté internationale de tolérer, je cite, la présence de l'armée rwandaise dans l'Est congolais, une agression illégale selon leurs termes, qui perdure malgré le vote en février dernier à l'ONU d'une résolution appelant le Rwanda à cesser de soutenir le M23. Les signataires font le parallèle avec la guerre en cours entre l'Ukraine et la Russie et dénoncent un deux poids, deux mesures.
Florence Maurice, dans l'actualité africaine, la libération à Bamako du secrétaire général du parti Convergence pour la démocratie, Alassane Abba, formation politique d'opposition. Il avait été arrêté le 8 mai à son domicile bamakois par des hommes armés. Plusieurs partis et organisations avaient alors dénoncé une arrestation extrajudiciaire et demandé sa libération. Abba était connu pour ses prises de position tranchées contre la junte au pouvoir au Mali. Il réclamait notamment un retour à l'ordre constitutionnel. Au Togo, des gendarmes et policiers déployés aujourd'hui dans plusieurs endroits de la capitale togolaise Lomé, après avoir dispersé un peu plus tôt dans la journée des manifestants qui protestaient contre le régime. Des forces de l'ordre visibles aux abords de plusieurs grands carrefours de la capitale et dans certaines rues de quartiers réputées être des fiefs de l'opposition. L'actualité en France et cet incendie mortel dans l'est du pays. Ce drame la nuit dernière à Reims. Plusieurs personnes sont mortes dans une tour HLM, au moins 4 morts. L'origine du sinistre est très probablement accidentelle, précisent les autorités.
Le tennis avec le tournoi de Roland-Garros qui en est à ses derniers matchs.
Carlos Alcaraz file en finale grâce à l'abandon au 4e set un peu plus tôt dans la journée de son adversaire Lorenzo Musetti. L'autre demi-finale, l'autre choc, Sinner Djokovic. Eric Mamrut, bonsoir.
Bonsoir.
Un match qui tient, en tout cas pour l'instant sur le papier, toutes ses promesses.
15 ans séparent les deux numéros 1 mondiaux, le nouveau Jannik Sinner, 23 ans, et son prédécesseur Novak Djokovic, 38 ans, le Serbe, battu lors de ses trois dernières confrontations face à l'Italien qui a donc pris les rênes du tennis mondial depuis un an et demi maintenant. Dans l'intervalle, Djokovic a alterné le meilleur et le pire, le meilleur avec le titre olympique décroché l'été dernier ici même à Paris, le pire avec plusieurs blessures et un début de saison sur terre calamiteux, sur terre battue, mais à l'approche de Roland-Garros, l'homme au 24 Grand Chelem, eh bien retrouvé peu à peu ses sensations et sa motivation. Il a gagné le tournoi de Genève et c'est brillamment ici en demi-finale, ici, en battant notamment le numéro 3 mondial Alexander Zverev. Mais ce soir, c'est le défi ultime, battre de nouveau Yannick Sinner qui a écrasé ses 5 premiers adversaires depuis le début du tournoi. Trouver à 38 ans la parade pour contrecarrer la puissance et la cadence imposée par l'Italien. Pas simple, mais c'est le duel, le genre de défi que Djokovic adore et pour lequel il court encore. Un duel qui s'annonce passionnant. Il va débuter dans un instant
maintenant. Éric Mamrut à Roland-Garros.
Et tout de suite, c'est dimanche, c'est Accent du Monde sur RFI.